Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Aujourd'hui, nous recevons Mathias Benmeriem. Mathias est business developer chez OK Studio, une entreprise montpelliéraine de production vidéo. Mais il faut savoir que pour arriver à ce poste, Mathias n'a fait aucune école de commerce. Il nous parle aujourd'hui de son parcours et comment il est devenu l'un des sales les plus influents en ce moment sur le LinkedIn français en étant totalement autodidacte. Et aujourd'hui, dans Le Déclic, on reçoit le mirifique, non que dis-je, l'incroyable, que dis-je, le roi du scale, comme dirait Thibault Louis, Mathias Benmeriem. Salut Mathias, comment tu vas ?
Salut Juliette, ça va très bien, merci et toi ?
Ça va super. Est-ce que t'as aimé cette intro ou pas ?
Elle était merveilleuse. Meilleure intro que j'ai entendue de ma vie.
C'était absolument improvisé. Je remercie les cours d'impro de la 3e 1 du lycée Barbet d'Aurevilly à Rouen. Gros big up.
Super précis.
Je te jure. En fait, on m'avait dit qu'il fallait être niche pour réussir, donc je suis absolument hyper niche.
Ah là, on y est bien. Là, il y a même des puces, il y a le chien, il y a tout. Très niché.
Merci Mathias d'être dans le déclic. C'est vraiment un plaisir de te recevoir.
Merci à toi de m'inviter, surtout, c'est super cool.
Du coup, Mathias, alors nous, on se connaît un petit peu, puisque c'est pour ceux qui ne savent pas, LinkedIn est devenue une grande communauté pour moi, en tout cas. Et c'est vrai que Mathias, c'est une des premières personnes avec qui j'ai vraiment noué une relation sur LinkedIn, alors qu'on ne s'est jamais vu en vrai, puisque toi, tu es à Montpellier, je suis à Paris. Mais quand on est des créateurs de contenu pour toi, ou des wannabe créateurs de contenu, puisque je n'ai pas encore une énorme fanbase, contrairement à toi, Mathias, il y a quand même beaucoup d'entraide et beaucoup de. Il y a une communauté qui se crée, c'est ça qui est assez ouf, et qu'on ne soupçonne pas quand on est. Spectateur à LinkedIn comme ce que je l'étais jusqu'à il y a quelques mois. Et donc tu fais partie en fait de ces créateurs très prolifiques et drôles sur LinkedIn, et c'est comme ça un peu qu'on s'est connus.
Avec tant de flatterie. Je sais plus où me mettre. Non, mais ouais, c'est vrai. LinkedIn, c'est un monde merveilleux pour ça. Parce que, à dire vrai, j'ai commencé à créer du contenu en septembre. Et ouais. Je m'attendais pas à avoir un monde aussi merveilleux. Parce que moi aussi, comme toi, j'étais spectateur pendant 2 ans et demi. Mm-hmm. Et j'ai décidé de m'y mettre. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit déclic dans l'émission. Hey. Et il y a un petit déclic pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont mis à créer du contenu à la rentrée de cette année-là. Mm-hmm. Et ouais, c'est très cool. Il y a une très belle communauté. Il y a beaucoup de gens avec qui discuter. C'est super intéressant. Et c'est franchement, ça, on se doute pas de ça de LinkedIn.
C'est clair.
À l'époque, c'était très. On reste pro. Donc, qui dit pro dit sérieux. Et qui dit sérieux dit chiant. Donc, les gens osaient pas trop.
Pour moi, c'était juste un CV en ligne en plus. Quoi.
Exactement. Exactement. Et en fait, il y a vraiment du business à faire et rencontrer des gens par la même occasion et kiffer avec des gens. Et ça, c'est vraiment super cool. Après, c'est l'aspect des réseaux sociaux cool, justement, qu'on veut tous. On oublie tout le côté toxique, évidemment. Mais, mais non, franchement, ouais, c'est une très belle aventure. Il y a une très, très belle aventure.
C'est clair. Et du coup, alors on ne te reçoit pas pour parler uniquement de LinkedIn, mais on va quand même un petit peu aborder ce sujet puisque, comme je le disais, tu fais partie des créateurs de contenu qui marchent bien hein, sur le réseau. Alors je ne dis plus influenceur depuis que Thibault Louis, qu'on a reçu il y a quelques épisodes, m'a reprise là-dessus. Mais en vrai, moi, j'ai un peu envie de le dire aussi parce qu'il n'y a pas de gros mots dans le mot influenceur parce que l'influence, c'est aussi dans du bon. Hein, ce n'est pas uniquement des gens qui sortent de télé-réalité et qui vendent du thé qui donne la chiasse, quoi.
Ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'influenceur, c'est connoté justement sur ceux qui veulent vendre leurs produits qui sortent d'une télé-réalité. Mais à dire vrai, le mot est juste. Hein, le mot est juste. Mmh. C'est juste que comment c'est connoté aujourd'hui, ouais, on le perçoit comme ça. Mais oui.
Et alors du coup, cette fois, pour reprendre un peu le fil rouge de notre podcast, parce que sinon on va jamais en finir de digression, je me connais. Dans notre podcast, Mathias, on a l'habitude de demander un petit peu à nos invités de se présenter en amont. Donc est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie exactement ?
Eh bien, je suis Mathias Benmeriem, j'ai 30 ans et je suis sales chez OK Studio. OK Studio, c'est une agence de création de contenu, donc que ce soit vidéo, motion design, graphisme, et on travaille avec des grosses marques et c'est très cool.
Alors justement, on va parler beaucoup de OK Studio parce que ça fait partie de ton déclic, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant de finir sales, enfin de finir, d'être sales chez OK?
Finir. on sait pas. Mais oui, alors mon parcours, en gros, je parle de mon enfance directement.
Tu peux, bien sûr.
Ouais. En gros, moi, je suis fils de commerçant. Toute ma vie, j'ai vécu dans les commerces de mes parents. Donc déjà tout petit, mes plus lointains souvenirs, ça se résume au restaurant de mes parents où j'ai beaucoup discuté avec les clients et j'ai appris justement à être sociable dès tout jeune. Mmh. J'ai beaucoup travaillé avec mes parents, beaucoup, beaucoup, que ce soit dans restaurant puis après boulangerie quand j'étais un peu plus vieux. J'ai une famille de gros travailleurs. C'est-à-dire que quand ça ne travaillait pas au restaurant, bah mon père il faisait de la maçonnerie pour nous construire une maison et être bien et heureux tous ensemble. Voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé avec mon père, que ce soit au restaurant ou en maçonnerie ou aller couper du bois pour la cheminée dans les collines. C'était une enfance très particulière, mais très cool, très formatrice.
Prolifique encore, ouais. Quoi, il y avait beaucoup de choses.
Pour le coup, oui. Bon, quand tu es enfant, c'est vrai que tu as envie d'être un enfant, tu as envie de jouer, tu as envie de t'amuser. Moi j'avais pas trop celui que cela quand j'étais plus jeune parce que pour mes parents ils ont toujours vécu cette vie-là, une vie de travail, et forcément ils voulaient entraîner leurs enfants dedans, ce qui est normal. On éduque nos enfants comme on vit et je le comprends, et on souhaite le meilleur pour eux et on se dit qu'on leur apprend beaucoup à travers des tâches un peu dures d'ailleurs pour un enfant, mais ça a été alors, à l'époque, je ne le comprenais pas et ça me frustrait beaucoup parce que je voulais jouer aux jeux vidéo, je voulais voir des copains. Mais aujourd'hui, j'en suis très content. J'en suis très content parce que ça me sert beaucoup dans ma vie de tous les jours. Et c'est là où j'ai appris à être poli, à sourire, à être à l'aise avec les gens de manière générale, à être à l'aise pour parler en public.
Être un petit peu sales aussi, puisque finalement, vu qu'ils étaient eux-mêmes dans la vente,
être commerçant.
Le destin t'a un peu rattrapé. Quoi.
Exactement. J'ai toujours été dans la vente. Bon, avant, je vendais, je vendais des plats ou des croissants et des baguettes, et aujourd'hui, je vends de la vidéo. C'est pas du tout.
C'est pas exactement la même activité. Ouais.
C'est pas la même activité, mais par contre, les rapports aux gens sont les mêmes, justement, parce que. Comme dans tout commerce, que ce soit en vidéo ou en boulangerie, on a envie que les clients soient fidèles, que les clients soient satisfaits, de bien les servir, parce que c'est un service et ça passe avant tout par l'humain, ça passe avant tout par les bonnes ententes. Et comme j'aime bien le dire, moi, si je vais à mon boulanger du coin tous les jours, même si son pain, c'est pas le meilleur de Montpellier, c'est juste parce qu'il est sympa et parce que je m'entends bien avec lui et parce qu'il est souriant et voilà, et je vais y retourner, je serai fidèle à lui et peu importe que son pain, même si son pain est pas ouf, c'est pas grave, l'humain est génial. Bon,
peut-être qu'il entendra ce podcast et qu'il va se remettre vachement en question.
Non, son pain est bon, ça va.
Bien mais pas top, on survit. Et alors du coup, est-ce que toi, donc t'as grandi dans une ambiance familiale très travailleuse, vraiment tournée vers les autres aussi, puisque tes parents étaient commerçants, mais est-ce que tu t'es dirigé vers ce type d'études ou pas du tout ?
Alors pas du tout. En fait, bon, faut savoir que pour mes parents, les études c'était super important. C'est-à-dire que ils ont justement cette image des études où ils idéalisent ça parce que je suis le seul de ma famille proche à avoir le bac, et du coup, je suis le seul à être allé en études supérieures par conséquent. Et pour eux, les études, ils ont toujours vu ça comme l'Eldorado pour les jeunes, et si on avait fait des études, on aurait pu faire mieux. Dans leur tête c'était ça. Et ils se sont dit qu'ils n'ont jamais eu l'occasion et qu'ils étaient obligés de travailler très jeunes. Et moi je voulais pas du tout faire les études qui m'ont un peu obligé à faire. Ils m'ont un peu obligé à faire du droit parce que mes parents voulaient que je sois avocat ou que sais-je. Et vu que j'avais 17 ans quand j'ai eu mon bac, ils voulaient pas que je quitte la maison en n'étant pas majeur. Donc du coup ils m'ont forcé à faire un an de droit dans la fac pas loin de chez eux. C'était à Avignon. Donc j'ai fait un endroit, autant te dire que j'ai échoué lamentablement parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi je m'intéressais beaucoup aux langues, donc je voulais faire LE anglais chinois sur Montpellier. Et c'est exactement ce que j'ai fait par la suite. J'ai fait j'avais déjà appris le chinois au lycée et
Ah
j'adorais le
oui, d'accord.
chinois. Ouais, j'adorais le chinois, j'ai eu l'opportunité d'apprendre beaucoup sur la culture et c'est une culture qui m'intriguait, enfin qui m'intrigue toujours aujourd'hui, hein, que j'adore. Et du coup, j'étais pas mauvais en plus en chinois, j'avais des facilités, donc
C'est
je me
fou
suis dit,
quand
bah,
même.
ouais, c'est
Parce
ouf, hein.
que y a toujours des personnes qui ont des grandes facilités en langue, mais c'est plus sur des langues, pas forcément que des langues latines, mais au moins des langues qu'on peut lire un
Ouais,
peu plus aisément,
exactement.
quoi. C'est parce que bon, même si écrire et lire, écrire et parler une langue, c'est complètement différent. Là, on est vraiment sur le grand écart en termes de compréhension.
Ah ouais, là c'est tout l'inverse. Enfin, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a, même que ce
C'est
soit au niveau
réapprendre à
du
marcher.
parler. Ah ouais, c'est complètement, parce qu'il y a quatre accentuations différentes en chinois, cinq si on compte la neutre. Donc du coup, en fait, toutes tes phrases sont rythmées parce que sinon, ce que tu dis, ça ne veut pas dire la même chose en fonction du ton que tu emploies. Donc c'est super dur, mais c'est un peu comme une musique en fait. C'est un peu chantant comme langue. Et
Ouais.
moi j'ai tout de suite kiffé, alors que je suis pas vraiment un musicien, mais j'ai tout de suite kiffé et j'ai mis beaucoup d'efforts. Et en fait, avec tout ce que j'avais appris au lycée, quand j'ai fait ma première année de chinois à Montpellier, je savais déjà tout. Tout le programme, je le connaissais déjà en fait.
Ah ouais.
Donc j'étais autant te dire que la première année, je l'ai cartonné concrètement.
Bah oui, du coup, plus
Bon,
que le
et en plus,
droit.
ouais, exactement, je l'ai cartonné. Et en plus, ça, je travaillais. Bon, du coup, j'ai pas besoin de travailler des masses. Et vu que ben, j'étais tout fraîchement étudiant avec son appart, avec sa liberté et plus besoin de travailler dans les différents commerces des parents, je te dis que bon, j'ai fait beaucoup de soirées.
C'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que la fougue étudiante ne t'a pas rattrapé à ce moment-là, quoi?
Ah ouais, en fait, il faut savoir que j'ai vécu une vie un peu d'interdit quand j'étais jeune. Je pouvais pas trop jouer aux jeux vidéo parce que ça plaisait pas trop à mes parents. Il
Oui,
fallait
d'accord.
travailler, travailler, travailler. Même quand je faisais des devoirs, parfois, ça gênait un peu mon père parce que bah, j'étais pas là pour servir en boulangerie. Donc
Ouais.
ça a été très compliqué pour moi cette époque-là. Et là, je me suis retrouvé avec une totale liberté. J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. C'est-à-dire que, alors, si des parents peuvent m'écouter, ne bridez pas trop vos enfants, parce qu'à un moment donné, ils vont faire leurs expériences et ils vont aller dans l'abus. Et moi, j'étais dans l'abus, j'étais dans l'excès. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer à mon ordinateur. J'ai joué, mais genre une vingtaine d'heures par jour. Enfin, y a des jours, vraiment, je
Ouais.
dormais 4 heures, je faisais que jouer, que jouer, que jouer, que
Et t'as
jouer.
eu ta période geek là où
C'est ça.
certains l'ont à 13-14 ans, toi tu
Ouais.
l'as eu quand t'as été émancipé, quoi.
Ah ouais, exactement. Après, j'ai pas échoué pour autant dans
Non,
mes
non.
études, mais c'était trop. Enfin, c'était trop. Je faisais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Bon, ça m'a appris beaucoup de choses, hein, parce que maintenant que j'ai vécu cette période, je sais que j'ai pas envie de revivre une période comme ça. Mais j'avais l'avantage de prendre des douches quand même. Je me mettais quand même une restriction. C'était ok, je geek toute la journée,
Mais
mais
je
je me
reste
lève, je me
propre.
douche. Ouais, c'est ça. Il faut que j'ai une hygiène de vie, parce que sinon je vais taper une dépression. Donc
Ouais.
j'ai bien fait, j'ai bien fait. Donc ouais, et donc voilà. Donc voilà pour les études. Donc j'ai pas du tout fait d'école commerciale, rien.
Et question qui n'était pas listée dans ma liste de questions, mais qu'est-ce que tu comptais faire avec cette licence DLEA? Est-ce que tu avais un peu une
Ouais.
idée?
Tu vas rigoler. Vu que moi j'ai toujours connu les commerces, je voulais ouvrir
Ouais.
une chaîne de boulangerie en Chine.
Mais c'est hyper stylé. Pourquoi je
C'est
rigolerais?
hyper stylé. Non, non, mais parce que c'est marrant. Et en fait, je voulais ouvrir une chaîne de boulangerie en Chine, donc je suis allé en Chine. Je suis allé à Pékin pendant un mois et à Shanghai pendant 2 semaines. Et je me suis beaucoup renseigné. J'ai parlé avec beaucoup de commerçants français. Donc à chaque fois que je voyais un restaurant français, j'essayais de faire en sorte d'y aller pour pouvoir leur poser des questions et tout. Parce que je voulais vraiment ouvrir des commerces là-bas. Et en fait, j'ai vu que le système ne m'intéressait pas. Parce que pour ouvrir une entreprise en Chine, il faut être très pote avec des Chinois. Il faut leur faire confiance parce que du coup, leur nom est sur le bail. Et
Ah oui, d'accord.
s'ils veulent te la mettre à l'envers, ils te la mettent à l'envers à tout moment.
Et puis
Et
t'as aucune
c'était.
façon de te retourner,
Et
quoi.
tu te retournes pas, parce que le gouvernement chinois dit non, non, c'est aux Chinois, c'est pas à toi, toi t'es étranger. En plus, ça se passe très comme ça en Chine, c'est vraiment, ils te font des grands sourires devant et certains, s'ils peuvent te la mettre, ils te la mettent. Donc tu peux te retrouver avec plus rien. Donc c'était trop risqué, et en plus de ça, il y a les
Surtout
mafias
quand t'as
chinoises à
17 ans.
payer. Ouais, surtout quand t'es jeune, ouais, ça, quand t'es jeune comme
Si t'as
ça.
19 ans comme ça, arrivé à Pékin, tout minot et tout.
Ouais. Ouais, mais je chantais, enfin, je voyais, il y avait une mafia qu'il fallait payer pour être protégé. C'était surtout pour éviter qu'ils te cassent le resto ou la boulangerie. Donc c'était un monde que je voulais pas découvrir et il y avait des trucs trop louches et j'avais pas envie de prendre ce risque-là, même si ça aurait pu être très lucratif, mais c'était trop risqué et je voulais pas du tout prendre ce risque-là. Donc j'ai vite fait machine arrière et j'ai dit bon, eh ben on va bien voir ce qu'on va faire.
Alors du coup, justement, excellente transition, c'était quoi ton premier job?
À mon premier job, en parallèle de mes études, je travaillais à McDonald's. Donc, je me retrouve en restauration, encore une fois. Ça,
Ouais.
c'est le truc que
Comme
je
quoi, ça
savais
te
faire.
rattrape toujours, quoi.
Ah, c'est fou. Donc, j'ai été équipier pendant 4 ans à McDonald's.
Ouais.
Vu que je voulais pas, je voulais vraiment sortir de McDo et j'avais peur d'évoluer, parce que je voulais pas évoluer à McDo, parce que une fois que tu évolues, tu as le pied dedans et t'es un peu enchaîné, tu sais plus comment en sortir. Je faisais mes études en parallèle et le problème c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté mes études, parce que ça m'ennuyait, je m'ennuyais en cours, je m'ennuyais
Ok.
beaucoup. Je trouvais que les cours avançaient pas assez vite selon mon
T'as
envie.
lâché vers quelle année à peu près?
J'ai lâché en troisième année, fin de troisième
Ah,
année.
en pleine licence.
Ouais,
T'avais déjà ta licence?
Alors non, en fait, en gros, justement, j'ai pas eu ma licence parce qu'en fait, en gros, ils me disaient qu'il fallait que je fasse un stage, mais un stage que j'avais déjà fait en Chine, mais qui m'ont invalidé parce que j'avais retapé. Et sauf que je m'étais beaucoup renseigné pour savoir si je devais refaire un stage, donc je me suis renseigné bien à l'avance et tout auprès des bureaux d'administration et tout. Et il y a une dame de l'administration qui m'a dit non, c'est bon, vous avez fait votre stage en Chine, vous avez une très bonne note, il n'y a pas de souci, votre stage il est validé. Et du coup, j'ai dit ok. Et le jour où les stages ont commencé. J'ai cette même madame du bureau d'administration qui m'appelle, qui me dit ah monsieur Benoît, désolé, je me suis trompé, en fait faut que vous refassiez un stage. Et j'ai dit c'est une blague.
Putain, c'est fou quand
C'est
même,
une
les
blague.
administrations de
Mais
fac, à chaque fois c'est le bordel, quoi.
ah ouais, parce que j'avais été des mois à l'avance, j'allais toutes les semaines et tout pour être sûr. Et là je dis bah non, en fait il fallait que je fasse un stage à l'étranger,
Mais là, tu
donc
vas foutre, Martine.
fallait que je lâche mon appart étudiant. Il fallait que je quitte mon job McDo et moi j'avais zéro thune, hein, vraiment. Enfin, je vivais. Il y a des mois où là en fin de mois je mangeais du pain pour survivre.
Putain.
Clairement c'était inenvisageable de faire un stage à l'étranger de 2 mois
Rémunéré,
et
non
de tout lâcher.
rémunéré,
Ouais.
ouais.
Ah ouais, c'était pas possible. Et du coup je dis ok, bah, ciao la fac,
Adios.
ça m'a saoulé, je m'en vais. Ça m'agace ces process qui n'ont aucun sens. Personne a les bonnes infos. Enfin ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Donc ouais, j'ai complètement zappé côté études que je trouvais qu'il n'y avait pas de sens à mon goût, parce que même les cours j'avais lâché parce que j'étudiais moi-même de mon côté et à chaque fois que je revenais en cours j'étais toujours en avance. J'ai fait le test, hein, j'y suis pas allé pendant un mois, je suis pas allé en cours de chinois pendant un mois et j'avais toujours de l'avance
C'est
après
fou
un
quand
mois,
même.
alors que j'avais fait ça en 2 jours, tu vois, j'avais fait ce travail-là en 2 jours et je me dis c'est pas possible de rater un mois de cours et d'être toujours en avance sur le cours. Moi ça m'agaçait, j'apprenais rien et je me disais bah la fac le but c'est d'apprendre quelque chose. Et vu que j'apprenais mieux par moi-même qu'en cours, je dis ok, ça me sert à rien. Si je veux apprendre, je sais que je peux le faire tout seul. Vraiment, bon après je sais pas si c'est ma fac qui était pas ouf à ce niveau-là ou si c'était certains profs. Hein, je remets pas en doute
Le système, ouais.
ouais, tout le système, mais je sais que pour moi en tout cas, c'était pas ce qu'il me fallait et pas ce dont j'avais envie. Donc, du coup, j'ai arrêté et j'ai quand même eu, malgré le fait que j'ai pas passé les partiels finaux, parce que j'ai dit stop, j'avais 8 de moyenne. J'avais 8 de moyenne sans passer les. Donc, en vrai,
C'est fou quand
si
même.
juste j'y avais été, enfin,
Ouais, t'aurais eu ta licence, quoi.
ouais, mais sauf que j'avais pas le stage, donc ma licence n'était pas validée quand même.
Oui, donc
Pendant,
ouais.
ouais, du
Ça revient au
coup,
même, quoi.
ouais, c'est ça.
Et donc, t'as commencé à bosser chez McDo.
Ouais.
Et tu voulais pas augmenter, mais t'as assez vite monté de grade, finalement.
Exactement. Alors en fait, vu que j'avais abandonné la fac, j'avais plus dans ma tête plus aucune perspective d'avenir. Vu que mes parents m'ont bourré le crâne comme quoi les études c'était important et que sans études tu faisais rien. Du coup, je me suis dit bah mon avenir c'est quoi? Il se passe quoi pour moi là? C'est quoi la suite? Et à l'époque, j'avais une copine avec qui je suis toujours aujourd'hui.
Oh, c'est joli.
et je me suis dit bon ben bah, faut que je rentre dans la vie active. Hein, va falloir commencer à gagner un peu d'argent parce que là j'ai aucune porte d'entrée ou que ce soit, j'ai juste un bac, j'ai 3 ans d'anglais chinois qui me servent absolument à rien. Enfin, je parle bien anglais, je parle un peu chinois, voilà, ça me sert pas à grand chose. Et du coup, j'ai dit ok, bon, McDo voulait que j'évolue. Du coup, j'ai dit ok, j'évolue. J'ai fait une lettre pour passer formateur, qui a un grade au-dessus d'équipier, mais dans
D'accord.
le but de passer manager. Donc en gros, je suis resté 3 mois formateur et je suis passé tout de suite après manager. Grosse augmentation de salaire, grosse augmentation de travail aussi. C'est pas du tout, pas du tout la même sauce. Hein. Quand tu es manager à McDo, c'est 10 heures par jour à courir tout le temps partout. Donc j'étais ça archi musclé.
Alors je vais rarement au Domac parce que en plus je mange pas de viande. Ouais. Donc de temps en temps quand j'y vais, c'est quand il y a le petit wrap chèvre ou des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je mets un point d'honneur à leur dire genre bon courage quoi, parce que les gens sont odieux et en plus, je suppose que tu as quand même une sacrée pression. Et en plus, moi j'habite à Bastia. Paris-Bastille, je peux te dire que quand je vais prendre mon McDo un petit psy, genre vers 1h du mat, etc., et qu'il y a des mecs qui leur parlent trop mal, etc., je me dis putain, mais mais genre courage quoi, genre vraiment, à chaque fois que j'arrive, je leur dis, mais genre vraiment bon courage en les regardant dans les yeux en mode, genre vraiment, genre je sais, c'est pas juste un mot, c'est vraiment un gros soutien quoi, c'est de la force que je t'envoie quoi.
Mais tu sais quoi, les clientes comme toi, c'est le bonheur, tu vois, le bonheur parce que, non mais c'est vrai, parce que tu te fais insulter tout le temps, ils te voient en train de courir de partout et tu transpires, t'es à fond actif et ils se plaignent, ils râlent, ils t'en mettent plein la tête. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de clients à McDo qui sont imbuvables parce qu'ils se disent en allant manger chez McDo, je vaux mieux qu'eux. En gros, ils disent ça.
C'est vrai.
Ils ont un rapport de supériorité et en plus, c'est horrible parce que par du temps, ben, les gens qui ont un esprit aussi étroit, pour moi, ils sont débiles. Hein, j'ai toujours gardé le sourire. Malgré tout. Et les seules fois où je m'énervais, c'est quand un des clients s'en prenait un de mes équipiers. Ça me rendait fou.
Ouais.
Ça me rendait fou parce qu'on était une grande famille et tu manques pas de respect à un petit gars, une petite meuf qui est là pour ses études et qui est en train d'essayer de s'en sortir. Et tu manques pas de respect aux gens comme ça. Et surtout ils étaient tous ultra mignons. On était 90 dans l'entreprise. Je m'entendais trop bien avec tout le monde. Et le but, c'était vraiment de. Et que tout le monde passe un moment. Pour moi, je voulais vraiment que mes équipiers, je savais que le taf était dur et je voulais qu'ils passent un moment. Je voulais vraiment qu'ils soient heureux au travail.
Faire en sorte que ce soit un petit peu moins pénible parce que déjà qu'il y a des lourds horaires, parfois des horaires de nuit ou alors qu'ils finissent tard, plus en plus des moments de rush incroyables, etc. Ouais. Autant faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais on en parlait sous un post de Thibault Louis justement sur LinkedIn. Moi, c'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est que la façon dont tu traites les gens qui te servent, ça reflète beaucoup sur ta personnalité.
Exactement.
Donc si t'as quelqu'un de gentil en face de toi, parce que tu prends un verre avec lui, mais qu'il est odieux avec le serveur, que ce soit un équipier McDo ou le serveur du Fouquet's, c'est très très révélateur d'une personnalité un peu toxique.
Ah, je suis absolument d'accord avec toi. Vraiment, c'est j'en ai vu plein des comme ça, et moi toujours, que ce soit les femmes de ménage, les vendeurs, les serveurs, je sais ce qu'ils vivent, je comprends parce que j'ai été à leur place aussi. Et vraiment, à chaque fois, hein, grand sourire, ça va, tout se passe bien. Juste un petit mot sympa, ça égaye une journée. Parce que
juste montrer qu'ils ne sont pas invisibles aussi, il y a ça aussi, tu vois.
Exactement. Parce que tu te sens mal, tu te sens en dessous, parce que les gens te traitent comme si t'étais un moins que rien.
C'est terrible.
Te sens en dessous, c'est très compliqué pour le moral. Et c'est pour ça qu'à McDo, il y a beaucoup de turnover aussi. Hein, parce
que
le métier est dur, les clients sont... Bon, il y en a beaucoup qui sont très sympas, hein, mais tu retiens que le négatif, hein, forcément.
Bah ouais, c'est dur. Hein. Moi, je me souviens, j'arrêterai pour la digression après, mais quand j'étais plus jeune, j'avais fait un job de vendeuse dans un magasin et j'étais prise dans deux magasins, un magasin genre vraiment... très très ciblé sur les jeunes, en plus c'était pour les périodes de soldes, très très ciblé sur les jeunes, etc. Et un autre un peu plus mémère, tu vois, un peu plus pour les mères de famille et plutôt sur un cœur de cible 35-40 ans. J'ai choisi le 35-40 parce que je me suis dit chez les plus jeunes, etc., qu'il y a un truc hyper low cost, les soldes, ça va être l'enfer.
Ah ouais.
Donc je me suis dit non mais si j'ai le choix, je prends le choix le plus là où je vais moins le faire un burn-out à 18 ans quoi.
Mais surtout que quand t'es jeune, t'as pas conscience encore. Enfin, il y en a qui sont très bien éduqués, hein, mais la majorité du temps, faut que tu te retrouves dans ces situations-là pour les comprendre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pas très sympas. Pas très sympas.
C'est ça, ils font les malins devant leurs copains, etc.
C'est ça.
Sale jeune.
Maintenant, c'est normal. Enfin, c'est normal.
Oui, non, mais
ça devrait
on
pas
est tous
être normal,
pas
mais ça manque un peu de maturité, mais c'est normal. La maturité, ça vient après.
Alors ensuite, après avoir critiqué les jeunes parce qu'on est des vieux des années 90, on va enfin parler un petit peu de ton déclic, on va en dire un petit peu plus à nos auditeurs. Toi Mathias, justement, ton déclic, ça a été de te rendre compte que tu peux devenir sales, tu peux travailler en tant que commercial dans une boîte comme OK Studio sans avoir besoin de faire une école de commerce. Donc là, tu nous parlais du fait que tu étais équipier chez McDo, manager chez McDo, excuse-moi, après avoir été équipier pendant quelques temps. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu en avais un peu marre, parce que tu disais qu'au départ... tu avais un petit peu peur de t'enliser dans cette entreprise. Et est-ce qu'il y a un moment où ça t'a rattrapé ? Qu'est-ce qui a fait que tu es parti de chez McDo ?
Alors, McDo, c'est très formateur. C'est une très très bonne école, que ce soit au niveau humain, au niveau gestion du stress, au niveau des process, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. McDo, c'est incroyable. Je suis allé à McDo France plusieurs fois. J'ai appris beaucoup. Mais voilà, McDo, c'est une très bonne école, mais tu restes pas à l'école toute ta vie, concrètement. Et en fait, au bout d'un moment, en tant que manager, bah, ça devenait la routine. Vraiment, ça
D'accord.
devenait la routine. Je m'ennuyais parce que je gérais toutes mes tâches
C'est encore une
parfaitement
question
bien.
d'ennui comme tu l'avais
C'est
eu dans
ça.
tes études, quoi.
Ouais, exactement, exactement. J'avais ce problème de tout maîtriser et que les perspectives d'évolution étaient très restreintes parce qu'il y a du monde qui veut évoluer. Et en général, ils ont tendance à faire évoluer les plus anciens et pas les plus performants. C'est un peu le problème de McDo. On était dans une grosse franchise. On faisait beaucoup d'argent. Mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais incroyablement. Et du coup, un jour, il y a Cédric et Jonathan de Hockey Studio qui sont venus vers
Ouais.
moi. Bon, ce sont des amis de très longue date. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je les connais. Et ils m'ont dit, bah, toi, bah, non, je vais expliquer vite fait comment ils m'ont
Vas-y,
annoncé ça. À McDo, j'étais obligé de me raser. J'ai pas le droit à la barbe.
vas-y. Ok.
Donc, du coup, je me
Oui,
rasais tout le
pour
temps.
question d'hygiène, je comprends assez.
Oui, après il y a des cache-barbes et tout, il y avait d'autres moyens de procéder, mais bon, après, où certains McDo, ils acceptent les barbes propres. Les barbes propres, et après, bon, quand t'es en cuisine, tu mets un cache-barbe. Mais à McDo, j'étais obligé de me raser, du coup.
D'accord.
Et moi, ça me frustrait parce que j'avais quoi? J'avais 27 ans. Je me disais, ouais, quand même, je suis un peu plus beau gosse avec une barbe. Ça me frustrait un peu. Et du coup, Cédric et Jonathan, en décembre 2018, ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, bah, de toute façon, Mathias, en 2019, tu auras une barbe. Et
Mais non,
moi,
c'est trop drôle.
j'ai compris ce qu'ils voulaient dire par là, parce que j'ai compris qu'ils désiraient m'embaucher. Et janvier 2019, ils viennent me voir, ils me disent, bon, tu la signes quand ta lettre de démission? Parce que nous, on a un poste pour toi en mars. Je dis, quoi, vous êtes sérieux?
Incroyable.
Ah, c'est incroyable. Ouais, mon cœur, il a bondi. Je me suis dit, waouh,
C'est
c'est.
fou quand même.
Vraiment. Et je leur ai dit, mais je vais faire quoi? Ils m'ont dit, bah, commercial. Enfin, tu sais parler aux gens, c'est ton truc, quoi. Je me suis dit, mais les gars, j'ai aucune étude. Enfin, vous êtes sûr de ça? Mais oui, t'inquiète, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et du coup, bah, je suis allé voir ma directrice le jour même. Et
Génial.
en plus, elle était un peu dans le rush à ce moment-là. Donc, je lui ai dit, bah, je peux te parler. Et elle me dit, bah, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Parce qu'elle était dans le rush. Elle est très gentille, elle est adorable, mais elle avait pas le temps. Et je
Ouais.
lui ai dit, ah, bah, ok, bah, je démissionne. Et là, elle a dit, quoi? Ah, bon, je vais prendre le
Ah
temps,
bah
du
là, t'as
coup.
le temps.
Du coup, elle a pris le temps et elle m'a dit, ah, ok, bah, c'est dommage. Bon, bah, ok, je comprends. Et elle était ultra, enfin, une personne, vraiment, c'est une personne en or. Elle a compris tout de suite, elle n'a pas cherché à comprendre, elle n'a pas
Mais elle a pas
cherché
cherché à
à.
te retenir.
Voilà, exactement, exactement. Elle n'a pas cherché à me retenir. Et elle m'a dit, ok, bah, vas-y, on s'arrange pardon, pour que tu sortes rapidement et que ça ne nous fasse pas défaut. Et je dis, ok, parfait. Donc, du coup, dès 1er février, j'ai arrêté McDo, 1er février 2019. Et 1er mars, du coup, je commençais chez Hockey Studio. Donc, entre février et mars, avec Hockey Studio, on est parti aux États-Unis
Génial.
pour commencer l'aventure. Donc, on a fait Los Angeles, Las Vegas, et c'était très sympa, très très sympa. Et du coup, 1er mars, j'ai commencé. J'ai commencé, mais vraiment dans le flou le plus total.
Oui, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire parce que, alors c'est hyper, hyper joli comme histoire parce que tu sens en plus que derrière Cédric et Jonathan, ils ont discuté tous les deux, ils se sont dit, tiens, le Mathias, qu'est-ce que t'en penses, etc., machin. Et ils ont fomenté leur coup, mais un joli coup. Mais du coup, comment ça s'est passé en fait cette découverte parce que t'avais quand même un petit peu de. Enfin voilà, tu débarquais pas, t'étais pas une poule devant un couteau, quoi. Tu débarquais pas complètement dans le milieu, tu connaissais un petit peu le sales, tu savais parler aux gens, etc. C'est ce qu'on disait au début de l'épisode. Mais c'est vrai qu'entre vendre des burgers ou vendre un sandwich dans la boulangerie de tes parents à une baguette de pain et vendre un service digital, etc., c'est complètement différent, surtout que c'est pas du tout les mêmes clients. Comment est-ce que ça s'est passé, cette découverte de ce nouveau métier?
Eh bien, c'était un peu la panique au début, enfin au tout début, hein, vraiment parce que en fait, je pensais que les gars allaient me former un peu, parce que moi, je savais pas trop ce qu'ils faisaient, comment ils démarchaient des gens et tout. Et en fait, j'ai découvert quand le jour où je suis rentré qu'ils démarchaient personne et juste on venait les chercher.
D'accord.
C'était le bouche à oreille, c'était ils travaillaient déjà avec des marques comme Puma, comme
Ah ouais.
Red Bull, qui étaient déjà des très très bons clients, BNP Paribas. Et en fait, ils allaient jamais démarcher. Juste, on entendait parler d'eux, ça se passait ultra bien à chaque fois. Donc, ouais, ouf. Et donc, moi, je suis arrivé, j'ai dit, ah, donc en fait, j'ai pas de formation non plus. Donc, vraiment, je suis arrivé.
À poil.
À poil. Complètement à poil. Donc, je me suis dit, ok, il va falloir que je me débrouille. Après, Cédric, il m'a pas mis la pression, justement. Il m'a dit, écoute, de toute façon, on a la trésor pour toi.
Top.
Moi, je sais que pendant un an, tu vendras rien. En gros, ils m'ont dit, pendant un an, tu ne vendras strictement rien. J'ai dit, ok. Bon, en même temps, j'ai un peu envie de prouver que j'allais vendre quelque chose vraiment.
Moi, tu me dis ça, je te fais eh, oh, oh,
ouais, 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 mais bon, j'ai pas voulu m'avancer pour pas passer pour un bouffon.
Ouais, je comprends. Mais je serais pas avec toi, ce serait pas tombé dans l'oreille d'une source, j'aurais fait tiens, tu vas voir si je vais rien vendre.
Ah ouais, c'est ça, dans ma tête, c'est ça, j'étais en mode, non, t'inquiète pas, je vais vendre. Et dès le premier mois, j'ai vendu d'ailleurs. Donc, trop cool. En gros, comment j'ai fait pour apprendre, surtout, c'était ça le plus important. Comment j'ai fait pour apprendre, c'est qu'en fait, avant, ils avaient une agence qui travaillait pour eux, qui avait des commerciaux, et du coup, j'ai récupéré un peu leurs documents pour étudier leurs argumentaires, pour étudier. Donc, déjà, du coup, je découvrais la vidéo parce que c'était un monde que je connaissais absolument pas. Donc, c'est dur de vendre un produit que tu connais pas.
Bien sûr.
L'avantage, c'est que c'est de la vidéo stylée. Donc, moi, j'étais déjà le premier fan de
c'est
ce
facile.
Qu'ils faisaient.
Quand c'est quelque chose que tu aimes, c'est beaucoup plus facile, quoi.
Exactement. Je vends pas des fenêtres. Bon, tous mes respects aux vendeurs de fenêtres, mais
c'est merci plus pour merci pour toi parce que Arrêt Fenêtre sponsorise cet épisode. C'est pas vrai du tout. Si vous voulez, Arrêt Fenêtre, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'aime bien les fenêtres. C'est pas parce que Mathias n'aime pas ça que.
Non, j'ai pas dit que j'aimais ça. Mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus difficile à vendre.
Ah oui, il faut.
Là, j'aurais pas eu les arguments.
Surtout quand tu découvres un métier que tu connais pas. S'il y a pas la passion derrière. Si tu n'es pas habité par l'ambiance de la boîte ou par le produit, bah c'est compliqué, tu vois. Voilà, c'est effectivement, même si tu n'y connais rien, là, tu as envie de découvrir parce que tu aimes le produit. Alors qu'effectivement, si jamais tu découvres un taf, effectivement, chez Arrêt Fenêtre, pour ne citer que, et que tu, en fait, bah, ça te, si tu fais plus ça pour l'argent et pour avoir un poste plutôt que parce que la boîte te plaît vraiment, ça risque d'être un peu plus déceptif, quoi.
Exactement, et tu t'essouffles vite, hein. Quand vraiment t'aimes pas ce que tu fais, ça se ressent très vite, tu restes max 2 ans, puis après
c'est
tu fais un plomb. Donc ouais, non, j'ai eu beaucoup de chance sur ça, j'ai eu énormément de chance. Donc du coup, surtout que les gars me laissaient le temps d'apprendre par moi-même, ils m'ont dit, voilà, nous on pense que LinkedIn c'est un bon canal d'acquisition client. Du coup, go. Tu te crées un compte LinkedIn, tu fais genre t'es là depuis déjà au moins 5 mois parce que bon, pour la légitimité,
ouais, bien sûr.
Et du coup, j'ai récupéré un peu les messages LinkedIn qu'envoyaient les anciens commerciaux qui travaillaient pour OK, mais j'aimais pas. En vrai, j'aimais pas. J'aimais pas les messages. J'ai trouvé trop long, pas d'émotion. Ça essayait de vendre une vidéo dès le premier message. Donc au début, je l'ai copié. Mais je me sentais relou. Quand j'allais prospecter, qu'est-ce que je me sentais relou. Donc j'ajoutais des gens à la chaîne et j'envoyais des centaines de messages par jour. Et là, c'était pas ouf du tout. Cet aspect-là du métier était vraiment pas ouf et j'aimais pas ce que je faisais. Mais vu que une entreprise de commerciaux faisait ça, je me disais, qui suis-je pour remettre en question le travail d'une boîte qui est spécialisée dans ça, tu vois. Je suis personne pour les remettre en question. Et donc, je recopiais forcément, parce que je me disais, ça doit être ça qu'il faut faire.
Et tu vois, c'est là où ça me fait réfléchir ce que tu dis, c'est parce que c'est des réflexions que j'ai eues plusieurs fois aussi dans mon métier. Mais je viens d'être touchée par la fée de la logique et je me dis qu'en fait, derrière une boîte, en fait, tu as des humains qui prennent des décisions. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est pas parce que c'est une boîte que toute décision est bonne à prendre. C'est pas parce que les process sont établis qu'ils sont forcément bons. Parce que derrière, ce sont des humains qui l'ont fait et on est tous faillibles. On ne prend pas toujours des bonnes décisions.
Exactement. Ça, je l'ai découvert. Avec les clients avec lesquels on bossait, on a vu beaucoup de boîtes, beaucoup d'entreprises, on voit les process, on sent que en fait, les process remplacent le bon sens. Et moi, c'est exactement ce qui se passait pour moi. Hein. Les process d'une autre boîte remplaçaient mon bon sens.
Toi, ça allait contre ton sentiment, mais tu t'es dit, le process est comme ça, j'y vais, quoi.
Ouais, exactement. Et ouais, vu que je me sentais pas légitime, c'est normal. Hein. De toute façon, quand on se sent pas légitime, on essaie de copier les autres. Et c'est tout à fait logique. Parce qu'on se dit, les autres, ils savent mieux. Les autres, ils ont fait des études pour ça. Les autres. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'aimais pas. Que j'aimais pas ce que je faisais, que je kiffais pas. Et donc j'ai trouvé des solutions très rapidement, hein, où je me suis dit, ok, les messages déjà, on est sur du LinkedIn, donc les gens la majorité du temps, ils regardent sur leur téléphone. Alors, recevoir un pavé sur ton téléphone, pour la flemme, quelqu'un que tu connais pas qui t'envoie un pavé, déjà, ça, c'est louche.
Et, c'est ça. Ouais. Bonjour, vous avez sûrement des besoins en vidéo. Je suis Mathias, je pourrais vous aider.
C'est ça, exactement. Et du coup, la première étape, ça a été de raccourcir les messages. Les messages. Et en fait, je me suis vite posé la question, ok, moi j'ai besoin de vidéo, comment est-ce que j'aimerais te prospecter? Et c'est surtout ça, en fait. J'essaie de me mettre à la place des gens, de manière générale.
Être user-centric, putain, c'est tout. Oui, c'est ce que je dis à tous mes clients.
Et moi, j'avais pas les termes, tu vois, mais j'avais la. Parce que justement, tout ce vocabulaire, bon, j'ai fini par l'apprendre au bout d'un moment. Mais c'est vrai que je l'avais pas, mais j'avais cette logique. Et c'est vrai que je me remettais en question, je me disais, mais moi, quand il y a un commercial qui m'appelle et qui me balance son argumentaire, j'ai à peine dit bonjour.
C'est
et
ça.
Boum, il est parti dans un monologue et tu oses même pas le couper, juste tu perds du temps. Quel enfer. Et je me suis dit, mais je veux pas être ce commercial-là, je veux pas être cette personne-là. Je veux être Mathias et j'ai besoin d'être Mathias. Mais j'ai mis du temps avant de réaliser que je voulais être Mathias.
T'as mis combien de temps à peu près?
Je pense que j'ai bien mis un an et demi avant. Bon, j'ai quand même vendu la première année, j'ai quand même vendu largement assez pour être rentable pour l'entreprise, sans compter tout ce que je faisais à côté, parce que bon, vu que je parle anglais, du coup, là, mon anglais me sert parce que je fais pas mal de traductions pour des grosses boîtes.
Bah oui,
donc ça, c'est très cool. Je vais sur les tournages. J'ai appris à cadrer du coup avec les gars, ils m'ont appris plein de trucs.
Génial.
C'est génial. Ouais, c'est génial. Je suis sur beaucoup de tournages, j'ai beaucoup bougé, que ce soit à travers
le prochain
l'Europe,
déclic de Mathias, comment j'ai décidé de devenir cadreur sans avoir la formation.
Mais tu sais quoi,
rendez-vous dans 3 ans.
Cédric et Jonathan, ils sont formés tout seuls.
Bah bien sûr.
Ils sont formés tout seuls. C'est-à-dire
que tu sais, moi je suis une autodidacte aussi. Hein,
ah
donc,
mais oui,
mais
on est dans le monde des autodidactes. Et les
bien
autodidactes
sûr.
Apprennent tellement plus de choses que les gens
c'est
à
clair.
L'école. Parce que
et surtout, on t'ose plus parce que tu t'es dit, bah si j'ai pu apprendre ça, pourquoi j'apprendrais pas à être poissonnier, cadreur et en
exactement.
Même temps guitare couture, tu vois.
C'est... En fait, une fois que t'as compris, t'as eu ton déclic justement que tu pouvais faire sans avoir besoin d'avoir des études ou quoi. Et bah, une fois que t'as confiance en toi et que tu te sens légitime, tu peux tout faire. Tu
c'est
peux
clair.
Tout faire.
C'est clair.
Et du coup, ouais, Cédric et Jonathan, ils ont monté OK. À l'époque, c'était une chaîne YouTube de breakdance. Et,
génial.
Donc en 2011, c'était la troisième plus grosse chaîne de break du monde.
Incroyable.
Ils avaient un public
international.
Ils avaient 15 000 abonnés en 2011, 15 000 abonnés sur YouTube. C'est incroyable.
Ah,
c'est,
bah bien sûr. Ah, bah, ça, je te crois.
Ben ouais, du coup, ben, ils ont appris tout seul et ils se sont fait une crédibilité de ouf. Hein. Tout le monde pensait que c'était OK Films à l'époque. Tout le monde pensait que OK Films c'était une boîte énorme américaine.
Ouais, un gros mastodonte quoi.
Ouais, alors que c'était deux gars dans un appart étudiant qui montaient des vidéos. Tu vois, c'est incroyable. Donc du coup, j'avais pas trop de doutes sur le fait qu'être autodidacte ça fonctionnait, mais j'avais besoin de prendre mon envol et donc de pratiquer. En fait, la pratique, ça remplace toute théorie, parce que bon, si t'as de la réflexion, enfin si tu réfléchis, tu te remets en question, t'essaies de bouger, de faire bouger les choses, et de tester, de retester, de garder ce qui est bon, d'enlever ce qui est moins bon. Bon, voilà, ça demande beaucoup de temps. C'est juste que les études peuvent peut-être te faire gagner du temps sur certains sujets, mais dans tous les cas, tu l'apprends. Enfin, tu finis par l'apprendre, tu finis par comprendre. Et parce qu'il faut faire des erreurs, faut se casser la gueule pour comprendre pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal. Donc j'ai mis du temps avant de me sentir légitime. Je sais plus où j'en étais, je suis désolé.
Ouais, on parlait du fait que t'as mis un peu plus de temps à comprendre qu'en fait il fallait que tu suives ton instinct et que tu sois toi et que tu laisses un petit peu tomber les process.
Exactement. En gros, bah justement, c'est là où j'ai commencé à tester, à faire différents tests, à me dire, j'aime pas cette façon de travailler, j'aime pas ces process, c'est pas moi.
Ouais.
Et ça me gêne parce que vu que c'est pas moi, vu que je joue un rôle. Eh ben, du coup, je le gère pas, ce rôle, parce que je gère mieux le rôle de Mathias, parce que ça, c'est ce que je suis, plutôt que le rôle du commercial requin qui est... Alors que moi, je suis pas un requin, j'ai pas du tout envie de ça. Donc j'ai commencé à faire différents tests, à changer ma manière de parler, à parler beaucoup plus naturellement, à proposer plus de calls, parce qu'au début j'étais un peu effrayé des calls alors que je savais parler aux gens, mais c'est juste que vu que je devais jouer un rôle, j'étais pas à l'aise du tout au téléphone.
Ouais.
J'étais pas du tout à l'aise. Et au moment où j'ai commencé à prendre le rôle de Mathias, bah, l'école, ça coulait tout seul. Et,
ouais,
et aussi, au fur et à mesure, à force de travailler avec les gars, bah, je savais exactement parler de la vidéo,
c'est
du
ça.
motion design. Enfin, tu vois, je savais tout.
Oui, c'est là où il ne faut pas oublier, effectivement, c'est qu'à la fois, tu as appris à être toi-même et tu as aussi appris de plus en plus à t'imprégner du produit OK Studio.
Exactement, exactement. Ouais. Donc c'est... Bah, c'était parfait, quoi. C'était parfait. En fait, le fait de bouger avec eux en tournage, ça m'a fait beaucoup prendre en maturité aussi.
Ça ne m'étonne pas.
Tu vois, enfin, on a vraiment fait le tour de la France, on a fait plusieurs pays en Europe et tout.
Génial.
D'ailleurs, en mars 2020, donc attention au Covid,
ouais.
Début du Covid, on était dans une usine de costumes avec Cédric en Roumanie pendant une semaine.
Ouais.
On a travaillé là-bas, donc c'était génial, hein, c'était vraiment super intéressant. Mais on a chopé le Covid là-bas. Donc du coup,
merde.
Sur le retour, dans les trajets, sur le retour, on l'a chopé. Et quand on est rentré en France... Un jour plus tard, ils annonçaient le premier confinement.
Ouais, et puis en plus, à cette époque-là, on savait pas trop.
C'est ça.
On avait peur de cette maladie. On savait pas à quel point c'était mortel ou pas, tu vois. Enfin, moi qui suis asthmatique, on avait flippé avec mon mec. On se disait, mais est-ce qu'on reste à Paris? Est-ce qu'on va se confiner ailleurs? Du coup, on s'est dit, mais on reste à Paris parce que, un, il y a le chat. Deux, il y a les plantes. et trois, avec mon mec, on se disait, comme on savait pas à quel point c'était dangereux ou pas, quand t'étais plus jeune, etc., on s'est dit, il vaut mieux qu'on soit à Paris où il y a des hôpitaux, quoi.
Mmh. Ouais, clairement. Oui, je comprends tout à fait la réflexion. Elle est logique. Mais le truc, c'est que le confinement, on ne sait pas combien de temps ça allait durer, tu vois. Ça a été incroyable.
Quelle drôle de période, putain.
Ah,
c'est... Quand il repense, les apéros visio, plus jamais je vais faire ça. Fini, mec. Plus jamais je referai ça de ma vie. C'était à la fois une bulle d'air, mais à la fois terrible quand tu repenses en arrière.
C'est
d'une tristesse.
Le monde s'est arrêté pendant 2 mois et
c'est
incroyable. D'un côté, c'est historique,
ouais.
Et le fait de vivre un moment d'histoire comme ça, parce que t'en es conscient, tu vois que c'est un moment d'histoire.
Surtout à notre âge,
ouais, c'est incroyable. C'est pas forcément dans le bon sens, tu vois, mais
non.
C'est quand même assez excitant de te dire, ok, là il y a le monde qui s'est arrêté pendant 2 mois.
On va raconter ça à nos gamins, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est un souvenir qu'on aura toute notre vie, tu vois, c'est incroyable. Nous, du coup, on a arrêté de travailler forcément parce que c'était le flou le plus total. Pendant 2 mois, donc on a arrêté de travailler. Bon, moi, j'ai bien joué pendant 2 mois.
T'as retourné à tes 17 ans.
Ah ouais, là concrètement, c'était,
des
c'était
douches, quand même,
15 heures par jour. Ouais, oui, bien sûr, je me douchais, j'étais à mon appart, j'étais clean, hein, j'étais bien, bon, c'était juste que j'étais un peu inquiet pour la boîte, forcément. Bon, faut savoir que depuis que la boîte a toujours monté en chiffre d'affaires. Elle a jamais stagné ou baissé. Elle a toujours monté et c'est un 20% constant tous les ans. Donc, et là, il va un peu plus cette année d'ailleurs. Mais du coup, c'est incroyable parce que on voit l'évolution en même temps de la boîte à travers le CA, hein, forcément.
Bien sûr.
Et on voit nos performances à tous qui augmentent tout le temps. Là, on a recruté une 5e personne d'ailleurs.
Génial.
Donc ouais, c'est cool, c'est très cool. Et du coup, donc 2020-2021. C'est là où j'ai vécu mes plus grosses remises en question et mes plus gros changements. J'ai toujours traîné sur LinkedIn, j'ai toujours scrollé sur LinkedIn. Pendant 2 ans et demi, j'ai scrollé sur LinkedIn sans jamais rien poster, jamais rien commenter, juste en ajoutant des gens. Et Dieu merci, Wallaxi d'ailleurs, parce que ça m'a vraiment retiré une épine du pied, qui était, c'était vraiment déshumanisant d'ajouter des gens à la chaîne, de les contacter à la chaîne et tout. J'ai pu créer des scénarios très sympas avec Wallaxi et ça m'a vraiment ça m'a donné un souffle, ça m'a donné un second souffle où je pouvais me concentrer sur des tâches où j'avais plus le temps de réfléchir à comment bien faire mon travail, tu vois.
Je me permets de faire une petite précision pour ceux qui ne connaîtraient pas Wallaxi. En fait, c'est un système de CRM et d'automatisation de la prospection sur LinkedIn. Si jamais vous travaillez dans ce domaine, c'est très intéressant, surtout que maintenant la solution est passée gratuite depuis peu.
Oh là là, et j'ai fait une soirée chez eux d'ailleurs hier, c'était très cool. J'ai
vu leur bureau.
Ouais, ça m'appelait, ça m'appelait. Et c'est quoi, ils sont juste à côté de chez moi.
C'est fou parce que Montpellier, c'est vrai que c'est une grosse.
Ça commence à prendre, ouais.
Ça a toujours été une ville de start-up, mais là, de plus en plus, surtout avec le. Surtout depuis le Covid, où en fait, on a compris que c'était pas obligatoire d'être à Paris pour avoir des deals, quoi.
Exactement.
Mais effectivement, ouais, il y a beaucoup de. Bon, bref, on fait pas mal de digressions, excuse-moi.
Bon, ça me va.
Ah ouais, moi aussi, carrément.
Mais, et leurs bureaux sont incroyables. Hein. Si jamais tu passes par Montpellier, il faut aller les voir parce que c'est une vraie jungle. Ils ont mis des plantes de partout. Il y a une grosse piscine à boules. Il y a y a une salle chill et tout avec un gros filet pour se poser
Ah,
au-dessus.
c'est
Enfin,
dingue, j'adore.
c'est incroyable ça. Et puis même, c'est une grande famille, tout le monde a le smile, hein. Tout le monde a le smile, ils sont tous super heureux là-bas. Hein. Vraiment,
C'est top.
big up à Amandine d'ailleurs, qui est mon contact chez Wallaxy, qui est devenue ma pote et avec qui je m'entends extrêmement bien.
C'est
Donc,
drôle.
Ouais. Et du coup, ouais, désolé, je sais pas,
T'inquiète.
on part un peu dans tous les sens, mais on va y arriver.
Bah ouais, non, mais tu sais, moi, c'est ce que je t'avais dit, hein, c'est que c'est le déclic, c'est avant tout une discussion.
C'est
Et
cool.
puis avec Sophie, on est surtout, on met un point d'honneur, bah, tu vois, se permettre des digressions, c'est nous. Enfin, avec
Ouais.
c'est nous, c'est tu vois, tu parlais du fait que c'était important d'être soi-même, bah nous, c'est pareil sur le podcast. On aime bien discuter avec nos différents invités, on aime bien aussi donner notre avis de temps en temps, etc. Et tu vois, là, moi, sur mes questions qui sont listées, il y en a plein auxquelles tu as répondu pendant qu'on discutait. Donc
Ouais, c'est
finalement,
vrai.
on n'est pas si loin que ça du sujet.
C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est beaucoup mieux comme ça dans tous les cas, plutôt qu'un format interview classique où là il y a des vrais échanges et moi, je préfère ça.
Et du coup, alors, on en était donc, tu arrives en 2021 et là 2022, comment ça s'augure chez OK?
Alors, en gros. En fait, avant ça, donc en gros, j'ai eu un vrai déclic, enfin qui a confirmé le déclic. Donc déjà, j'ai toujours vendu largement assez pour être rentable
Ouais.
dans l'entreprise, sans compter tout ce que je faisais à côté pour OK, ce qui était beaucoup
Ouais.
vraiment. Et c'est un kiff de travailler avec OK parce que on a une équipe de dingue, vraiment, on n'est que des potes et c'est merveilleux, vraiment c'est
Ouais.
merveilleux. Franchement, les gars sont super cool avec nous. Y a pas cette relation employeur-employé, tu vois.
Ouais.
Il y a vraiment une relation, on est tous sur un pied d'égalité, on partage tous la boîte, on veut tous la faire grandir, enfin il y a une vraie motivation, c'est trop cool. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis demandé, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux en tant que commercial aujourd'hui, après plus de 2 ans de bons loyers service pour OK, est-ce que je suis un bon commercial, quoi? Est-ce que je suis un bon commercial?
Oui,
Alors,
parce qu'en plus, t'as été lâché dans le grand bain tout
ouais.
seul, tu t'es formé un peu tout seul aussi, n'oublions pas que tu es autodidacte, donc même si, en étant autodidacte, c'est en voyant que tu sais faire, que tu arrives à avoir un petit peu plus de confiance en soi, tu as quand même parfois un petit syndrome de l'imposteur qui peut popper, quoi. Donc je comprends que tu aies eu
Exactement.
une petite réflexion à ce moment-là.
Exactement. Et je découvrais Thibault Louis en plus à ce moment-là. Je m'entendais bien avec lui. Enfin, je m'entends toujours bien avec lui. C'était trop cool de le voir. Enfin, je l'ai vu à ses débuts. On se parlait beaucoup. Ultra sympa, ultra ouvert. Et lui m'a donné envie. Il m'a donné envie en fait d'évoluer.
Ouais.
Et du coup, j'avais compris que pour évoluer, j'avais besoin d'être légitime et de me sentir légitime surtout. Au-delà d'être légitime, c'est de me sentir légitime. Parce qu'une fois que tu te sens légitime, tu l'es aux yeux des gens. Et c'est le rapport qui change. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai postulé en tant que commercial dans une autre grosse boîte vidéo, mais une très grosse
Ouais.
boîte vidéo. Et dans le but de décrocher un entretien, de savoir si c'est bien ce que je vaux ou enfin de comprendre. Donc j'ai
Et
parlé
puis
avec le CEO.
de voir un petit peu où est-ce que tu vas sur le marché aussi.
Exactement, exactement. Donc j'ai parlé avec le CEO de la boîte en question. En gros, j'ai envoyé un mail où je lui ai dit Hello, j'ai vu qu'il y a quelques mois tu recherchais un commercial. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est toujours d'actu.
Pourquoi pas en parler?
Faut qu'on en parle quoi. Et je joins pas de CV à ce mail. Si tu veux savoir qui je suis, appelle-moi. En gros, j'ai écrit ça.
J'adore.
C'est cool. En vrai, c'était cool. Et du coup, il a
Grave.
kiffé. Il a kiffé. Il m'a directement envoyé un message. On s'est eu en call une semaine plus tard. On a parlé pendant plus d'une heure.
Ouais.
Pendant plus d'une heure, dès qu'il me disait un truc, je répondais. Je m'entendais très bien avec lui. C'était super cool. C'était super cool, vraiment. Non, c'était trop cool. Enfin, notre conversation, il me posait plein de questions donc sur mon métier, comment je fonctionnais. J'étais complètement honnête avec lui. Je lui ai dit d'où
Ouais.
je venais, que j'avais pas fait d'école, que je faisais ça en autodidacte, blablabla. Je lui ai tout dit. J'étais
Ouais.
complètement honnête. Il fallait que je sois transparent parce que j'avais besoin de savoir. Et au bout d'un moment, il me dit, bah écoute, moi je suis chaud. Et en fait, je m'attendais pas à ça, tu vois.
Ouais, tu
Pas, je
t'attendais à ce
m'attendais,
que tu
ouais.
disais, cool, j'ai d'autres gens à voir,
Ouais, c'est ça, c'est ça.
machin.
Je m'attendais pas à ça. Et du coup, je dis, ok, d'accord. Et du coup, tu me proposes quoi, voilà. Et il m'a proposé un bon salaire, un très bon salaire, bien mieux que ce que j'avais. C'est vrai que sur le coup, ça m'a, mon cœur s'est arrêté. Je me suis dit, mais non, quoi? Je ne m'attendais pas du tout. Il m'a dit,
Tu
écoute,
m'étonnes.
écoute, ça fait des mois que je cherche un commercial. Ils sont, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont postulé, mais je trouve pas ce qu'il me faut. Et toi, tu as le bon mindset, tu as le truc, tu vois, tu as le truc. Et j'ai envie de faire un essai avec toi. Bon, c'est pas forcément un CD, mais il m'a dit, j'ai envie de faire un essai avec toi. Et moi, je mettais des bâtons dans les roues. Je dis, ouais, mais tu sais, je suis sur Montpellier et tout. Il me dit, ah, c'est pas grave, pendant 6 mois, tu peux télétravailler. Juste, tu viens une fois de temps en temps sur Paris et tout. Je dis, tu sais, j'essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. J'arrivais pas, je m'attendais pas à ça. Et du coup, et après, quand il m'a fait sa proposition, j'ai un peu bugué. J'ai hésité très légèrement, parce que moi, le but, c'était pas de partir dans une autre boîte, parce que je suis trop bien avec mes potes.
Ouais, mais bon,
Et je...
quand
C'est
t'as un
ça.
gros salaire, ça
C'est
te
ça.
fait
Mais quand
tout.
tu as un gros salaire, ça te... Ok. Et du coup, je dis, bah écoute, je réfléchis et on en reparle. Et juste après l'appel, évidemment, moi, j'étais fou de joie. Je me suis dit, ok,
Bien sûr.
je suis complètement légitime. Là,
Ouais.
j'ai, à partir de ce moment-là, j'ai pris une confiance en moi, mais extrême. J'ai un melon, non, pas à ce point, pas à ce point. Mais voilà, bon, évidemment, j'ai décliné l'offre. J'ai envoyé un petit vocal pour dire, bon, je suis désolé, mais OK a besoin de moi et je peux pas les
Ouais.
lâcher comme ça. Et enfin, j'aurais jamais pu me regarder dans un miroir en vrai, si je
Ouais.
les avais lâchés pour juste plus d'argent. C'est nul, tu
Oui.
vois. C'est trop nul.
Tu
Parce
t'aurais
que...
peut-être regretté, je doute pas
De
que
ouf.
l'autre boîte doit être très sympa aussi,
Oui.
mais si ta seule motivation c'est ça, uniquement ça, même si l'autre boîte peut être sympa, tu aurais peut-être regretté.
Ouais, exactement, exactement. Enfin, je suis très fidèle dans ma vie, que ce soit pour mes potes, pour ma copine. J'ai jamais trompé qui que ce soit, peu importe la relation, tu
Ouais.
vois. Et je peux, j'ai tendance à culpabiliser très vite. C'est-à-dire que si je fais un truc qui presque ne se rapproche, même si c'est pas mal, genre, tu vois, le fait d'avoir eu cet appel avec une agence concurrente, je me
T'avais
sentais
l'impression
super mal.
d'avoir un peu trompé ta
Ah
meuf,
ouais.
quoi.
Ouais,
Ouais.
exactement, exactement. J'ai l'impression d'être un traître.
Ouais, je
Et
comprends.
sauf que c'était pas le cas, parce que le but c'était vraiment juste de me renseigner, c'était pas de partir ailleurs. Et je me suis senti, tu sais, j'ai une boule à l'estomac, enfin, je me sentais trop mal. Alors que, en vrai, c'est pas grand chose, hein, ce qui s'est rien passé,
Bah,
hein,
et puis
mais.
business is business en plus. Hein.
Ouais, mais je peux. Peu importe, je
Donc,
peux pas trahir mes potes.
ouais.
Vraiment, je peux pas trahir mes potes. Et
Oui,
c'est toc.
il y a la dimension du fait que vous êtes amis qui de toute façon met quand
Ouais.
même
Ouais.
quelque chose en plus, quoi.
Aujourd'hui, c'est plus que des amis, enfin, c'est ma famille, tu vois, c'est
Bah
la
ouais.
famille que j'ai choisie.
Ouais.
Donc ouais. Mais du coup, en tout cas, j'ai pris énormément confiance en moi. Et vu que j'avais beaucoup parlé avec Thibaut Louis, justement, je me suis dit, mais c'est quoi, je vais me chauffer, je vais commencer à faire des posts sur LinkedIn. Maintenant que je me sens légitime,
Ouais.
je sens que j'ai le droit de parler, tu vois, j'ai le droit de parler sur LinkedIn. Et j'ai proposé ça aux gars chez OK Studio. On avait fait une petite semaine de vacances travail
Ouais.
dans une grande maison avec piscine, c'était trop cool. Je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai beaucoup vu Thibault Louis à l'œuvre, il m'inspire beaucoup. J'ai envie de poster sur LinkedIn. Les gars, ils étaient pas trop chauds. Ils étaient pas trop
Ah
chauds pour
ouais.
ça, à dire vrai. Mais je leur ai expliqué tous les bienfaits que ça pouvait avoir. Au moins qu'on peut essayer, que ça, c'est un canal
Oui.
de, enfin, un canal potentiel qui peut être incroyable, qui moi facilitera ma prospection.
Oui, en plus.
C'est ça. Et c'était une autre manière de travailler, mais que ça pouvait être très sympa. Ils m'ont dit, écoute, on te laisse faire. On te fait confiance. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. T'inquiète. Faut essayer. Faut bien essayer. Donc, du coup, j'ai commencé à rédiger des posts. Pour les avoir en réserve pour LinkedIn. Et du coup, j'ai commencé à rédiger des posts sur LinkedIn et j'ai surtout dit aux gars, par contre, les gars, je vous préviens, je vais être authentique, je vais être moi-même. Je ne
Ouais.
veux pas poster avec la voix de quelqu'un, je vais être moi-même et vous avez rien à dire sur ça. Je ne vous autorise pas de reprendre ce que je dis pour les modifier pour que ça vous convienne, d'accord?
Ouais.
Je veux parler avec la voix de Mathias, c'est important pour moi et je sais qu'en n'étant pas authentique, ça va être éclaté et
Oui,
moi, ça
c'est
va me saouler.
clair.
Du coup, ils m'ont dit OK. Ils m'ont dit OK, ils m'ont fait entièrement confiance en ça. Donc, j'ai commencé à poster la dernière semaine d'août,
Ouais.
où j'ai un peu teasé. J'ai fait une série de posts. J'ai envie de poster sur LinkedIn, mais c'était des posts de deux lignes, tu vois.
Ouais.
J'ai fait un post un peu viral,
Ouais,
mais
je m'en
c'était.
rappelle, je m'en
Ouais,
rappelle.
c'était nul, hein. C'était j'ai envie de poster sur LinkedIn, mais j'ai pas envie que les gens cliquent sur voir plus, parce qu'il n'y a pas plus. Et du coup, les gens cliquaient sur voir plus,
Je
et
me
ouais.
rappelle de ça, j'ai dû commenter et tout, je me rappelle carrément ce
Ah,
poste.
c'était marqué, vous voyez, je vous l'avais dit, enfin un truc dans le genre. Ce post-là, il avait fait quoi, 320 likes. Mais pour un premier post, je dis, ok, c'est cool. Mais bon, après, c'était pas des leads, enfin, c'était pas des vues qualifiées. C'était juste une petite blague LinkedIn, donc ça amène rien. Mais j'étais content, tu vois, j'étais content de me dire, ok, bon, bah, ça commence. Du coup, j'ai commencé à poster sur LinkedIn. Vu que j'avais ultra confiance en moi, j'avais ultra confiance en moi, donc j'ai posté des différents projets. J'ai fini par trouver ma voie, hein, parce qu'au début c'est pas évident, mais forcément plus tu joues au tennis, meilleur t'es au tennis. Et là, plus tu postes sur LinkedIn, meilleur t'es dans tes posts LinkedIn. C'est ouais. logique, c'est la pratique qui fait que t'es meilleur. Et du coup, j'ai trouvé ma voie petit à petit, j'ai trouvé ma communauté petit à petit. Je poste tous les jours. Tous les jours, je dis un truc. Parfois, c'est une connerie, mais surtout en essayant d'être, en étant un peu drôle, mais naturellement, je parle comme si, j'écris comme je le dirais. Exactement, exactement. Et c'est cool, et c'est très cool parce que il y a les gens qui me ressemblent qui ont commencé à arriver petit à petit, et la communauté grossit. Là, je suis bientôt à 10 000 abonnés. Ça commence à faire concrètement.
Ouais, en quelques mois, c'est vraiment pas mal. Hein.
Ouais, en quelques mois, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très, très bien. Et j'ai de très bons retours. Et surtout, j'ai plein de calls tout le temps. Parce que les gens savent déjà qui je suis et ça facilite mes calls. Il y a des tutoiements plus faciles directement. J'ai eu beaucoup de contrats juste parce que je poste sur LinkedIn. Ça paraît bête, hein, dit comme ça. Mais c'est plus facile.
C'est une manière de montrer que tu existes aussi. Parce que si tu postes de plus en plus et qu'on voit passer ta petite tête de temps en temps, etc., tu dis mais c'est marrant, il fait quoi exactement ce mec-là ? Clac, ouais. Vidéo, etc. etc. Ouais, c'est l'effet boule de neige, quoi.
Exactement, exactement. Et surtout, il y a des gens, ils sont adorables, ils sont trop mignons. À chaque fois qu'ils voient quelqu'un qui fait un post où il recherche un vidéaste, ça me tag en masse sous le post. Ouais. Et ça, c'est adorable, ils sont trop mignons. Ça m'a permis. D'ailleurs, j'ai envoyé des gros devis. J'ai envoyé des gros devis, et c'est grâce à cette communauté justement où c'est bienveillant en fait. Et du coup, j'ai rencontré tellement de gens sympas, j'ai fait tellement de calls sur Discord, sur Google Meet, juste pour parler sans vouloir. En fait, il y avait pas de désir de vendre, tu vois. C'est juste désir d'être pote. Et si jamais il y a un contrat par là, c'est cool, tu vois. Mais s'il n'y a pas, c'est pas grave, c'est pas le but en fait. C'est le but caché entre guillemets. Mais s'il n'y a pas de contrat, je m'en fous. Je m'en fous parce que je fais des belles rencontres et c'est ça qui est trop cool. C'est vraiment ça qui est trop cool. C'est pour ça que c'est une trop belle aventure, LinkedIn. Le fait de poster, ça, tu te rends visible. Du coup, il y a des gens qui vont venir te parler naturellement. Et tu fais des rencontres de ouf. Parfois, j'ai des étudiants, mais ils me donnent des conseils pour mieux vendre ou quoi. Et je prends un peu de temps avec eux. Je prends une heure sur Discord après le taf, tu vois. Et je leur dis, vas-y, dis-moi où est-ce que tu pêches. Dis-moi où ça va pas. Et puis viens, on en parle ensemble. Et puis, on voit ensemble ce qu'on peut faire, tu vois. Et c'est trop cool. Et là, je parle avec pas mal d'étudiants, d'ailleurs. Et je suis content, en fait, de le faire. Je suis trop content de le faire, de pouvoir apprendre aux gens de mes erreurs, de comment j'ai commencé, d'aider quelqu'un comme j'aurais aimé qu'on m'aide moi au début. Ah, je kiffe de ouf.
Alors, on a déjà presque une heure de rush. Désolé. De voir mais non, justement, j'adore. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué, je suis quelqu'un d'assez bavard également. Mais je vais devoir quand même à un moment conclure également. Oui. Et justement, pour conclure, mon cher Mathias, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils aux personnes qui seraient comme toi qui ont envie soit de devenir sales ou de faire toute autre chose. Bon, évidemment, on ne parle pas de devenir Thomas Pesquet et de partir à l'ISS si vous n'avez pas de formation, oui. Ça va être un peu compliqué. Mais effectivement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se réorienter mais qui n'a pas forcément envie de reprendre des études, aux gens qui ne croient pas forcément au côté autodidacte, etc. Enfin, voilà, à des gens qui étaient un petit peu le Mathias d'avant, quoi.
Eh ben, en vrai, il faut juste se lancer. Hein. Concrètement, c'est... tu apprends de tes erreurs, tu essayes, tu vois ce qui marche, ce qui marche pas, et en fait faut juste y aller, faut juste se sentir, donc c'est facile à dire de se sentir légitime, moi j'ai mis longtemps de me sentir légitime, mais il faut prendre confiance, et il faut même à la limite faire semblant d'avoir confiance en soi, au bout d'un moment ça t'amène à avoir confiance en toi, c'est bizarre hein, mais juste le fait de prétendre, tu deviens, et c'est le fake it until you make it qui commence à être assez connu maintenant, mais ça c'est réel, il faut essayer, garder ce qui va, enlever ce qui va pas, et en vrai il y a pas de secret, c'est juste la pratique qui fait, les études c'est sympa, ça rassure, mais il y a pas besoin d'études. En vrai, il n'y a pas besoin d'études. Il faut juste du bon sens, de l'empathie. Je pense que de l'empathie, c'est ce qu'il faut le plus pour être sales. Et c'est de comprendre ce dont les gens ont envie et pas ce que ta boîte a envie. Tu vois. Il faut se mettre à la place des gens parce que tu es à la place des gens, parce que tu es toi-même prospecté, toi-même tu reçois des commerciaux, des appels. Et il faut juste retenir ce qui te saoule dans ces appels-là, ce que tu n'aimes pas pour améliorer l'expérience utilisateur déjà. Et puis après, ouais, juste parler aux gens, ça se fait très bien.
Eh ben merci beaucoup Mathias pour ce merci beau toi, déclic, Juliette. Ce bel épisode. C'était vraiment top. Ça aurait pu durer 2 heures, ça nous aurait pas dérangé.
De ouf.
mais à refaire du coup, ou même on fera pas un apéro visio parce que je t'ai dit je voudrais jamais refaire ça.
Ouais, c'est bon.
Mais c'est les jours où tu es de passage sur Paris ou si un jour je suis de passage à Montpellier, eh ben t'hésite surtout pas et on,
s'est fait,
on se
ouf.
Fait ça en face d'une bière. merci beaucoup Mathias. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.
Merci Juliette, à très bientôt.
Et puis évidemment, si vous avez des besoins en vidéo, allez chez OK Studio.
Parfait, parfait.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté le déclic de Mathias. Pour en savoir plus sur OK Studio, rendez-vous sur leur site okstudio.com. Pour en savoir encore plus sur Mathias, rendez-vous sur son LinkedIn, Mathias Ben-Mariem. Cet épisode vous a plu ? Laissez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire pour nous soutenir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, @18h17 Productions. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.